Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc ce soir pour nos lectures en liberté et la suite du roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Earnshaw hurla. Non. S'il fait mine de partir, c'est un homme mort. Persuadez-le d'essayer et vous commettrez un meurtre. Faut-il que je perde tout, sans aucune chance de rien gagner? Faut-il que Ayrton soit un mendiant? Oh, damnation, je veux reprendre mon bien, et je veux avoir son or aussi, et puis son sang. Et l'enfer aura son âme. Il sera 10 fois plus noir avec cette hôte-là qu'il ne l'a jamais été. Vous m'aviez mise au courant, Hélène, des manières de votre ancien maître. Il est évidemment au bord de la folie, du moins y était-il la nuit dernière. Je frissonnais de me sentir près de lui, et je pensais qu'en comparaison, la grossièreté morose du domestique était agréable. Il reprit sa marche pensive. Je soulevai le loquet et m'échappai dans la cuisine. Joseph était penché sur le feu, surveillant une grande marmite qui se balançait au-dessus de l'âtre. Un bol de bois plein de gruau d'avoine était posé sur le banc à côté. Le contenu de la marmite commençait à bouillir et Joseph se tourna pour plonger la main dans le bol. Je conjecturai que ces préparatifs devaient être destinés à notre souper et comme j'avais faim, je décidai qu'il fallait que le plat fût mangeable. Aussitôt, criant sur un ton aigu « Je vais faire le porridge !» je plaçai le récipient hors de son atteinte et tout en retirant mon chapeau et mon amazone, je poursuivis « Monsieur Earnshaw m'a annoncé que j'aurais à me servir moi-même. Je vais m'y mettre. Je n'ai pas l'intention de faire la dame parmi vous, car je craindrais de mourir de faim. » « Bon Dieu ! » murmura-t-il, en s'asseyant et en passant la main sur ses bas à côte depuis le genou jusqu'à la cheville. « S'il faut que je recevions de nouveaux ordres, jusqu'en ce que je viens de m'habituer à 2 mètres, s'il faut que j'ayons une maîtresse sur le dos, il est grand temps que je disparaissions. » Nous ne pensions point avoir jamais le jour qu'il faudrait quitter la vieille maison. Mais je croyons qu'il est bien proche. Je ne pris pas garde à ces lamentations. Je me mis vivement à l'œuvre en soupirant au souvenir de l'époque où tout cela n'aurait été qu'une joyeuse plaisanterie. Mais je fus bien vite forcé de chasser cette réminiscence. L'image de mon bonheur passé me torturait, et plus je redoutais d'en évoquer l'apparition, plus vite tournait la spatule et plus vite les poignées de farine tombaient dans l'eau. Joseph contemplait ma manière de faire la cuisine avec une indignation croissante. « Et v'là ! » s'écria-t-il, « Ayrton n'aura point de porridge ce soir. Ce ne seront rien que des boulettes aussi grosses que mon poing, c'est ça. Je jetterions dedans le bol et tout le reste si j'étions de vous. » « Allons, tirez l'écume et ça y sera. Pan-pan, c'est une bénédiction que le fond y soit point crevé. » C'était certainement un mets assez grossier, je l'avoue, quand il fut versé dans les assiettes. Il y en avait 4 préparés et l'on avait apporté de la laiterie un pot de lait frais dont Ayrton se saisit. Il se mit à boire en répandant la moitié. Je protestai et voulus qu'il versât son lait dans la tasse. Je déclarai que je ne pourrais pas goûter à un liquide aussi malproprement manipulé. Le vieux cynique jugea bon de se montrer très scandalisé de ce raffinement. Il m'assura à plusieurs reprises que le gamin y me valait bien et qu'il était aussi sain comme moi. s'étonnant que je puisse être si infatué de ma personne. Pendant ce temps, le jeune vaurien continuait de téter et me regardait d'un air de défi tout en bavant dans le pot. « Je prendrai mon souper dans une autre pièce, » déclarai-je. « N'avez-vous pas un endroit que vous appelez le petit salon ?»«
Le petit salon ?» répéta-t-il en cri.
Henri, je reprends.
« Petit salon ?» répéta-t-il en ricanant. « Petit salon ? Non, nous n'avons point de petit salon. Si notre compagnie ne voulait point, il y a celle du maître. Et si c'est ce que vous n'aimez point celle du maître, il y a la nôtre. »
Alors je vais monter. Montrez-moi une chambre. Je mis mon assiette sur un plateau et allai moi-même chercher encore un peu de lait. Le vieux drôle se leva en grognant beaucoup et me précéda dans l'escalier. Nous montâmes jusqu'au grenier. Il ouvrait une porte de temps à autre et regardait dans les pièces devant lesquelles nous passions. «
Là une chambre, » dit-il enfin en faisant tourner sur ses gonds une planche branlante. « Elle est ben assez bonne pour y manger un peu de porridge. Il y a un tas de grains dans le coin-là qui est gentiment propre. Si vous n'avez pas peur de salir votre robe de soie, étendez votre mouchoir dessus. »
La chambre était une espèce de débarras qui empoisonnait de malt et de grains. Différents sacs pleins de ces denrées étaient empilés tout autour, laissant un large espace libre au milieu.
« Mais voyons, » m'écriai-je, en le regardant d'un air furieux, « ce n'est pas là un endroit pour passer la nuit. Je désire voir ma chambre à coucher. »«
Chambre à coucher ?» répéta-t-il sur un ton moqueur.
« Vous avez vu toutes les chambres à coucher qu'il y a ici, voilà la mienne. »
Il me désigna un second galetas qui ne différait du premier que parce que les murs y étaient plus nus et qu'il s'y trouvait un grand lit bas sans rideau avec un couvre-pied indigo à un bout.
Qu'ai-je à faire de la vôtre ? Répliquai-je. Je suppose que M. Heathcliff ne loge pas sous les toits, n'est-ce pas ?
Oh, c'est la chambre de M. Heathcliff que vous désiriez ! S'écria-t-il comme s'il faisait une découverte. « Vous pouviez pas donc le dire tout drette ? Je vous aurions expliqué sans me donner tant de peine que c'est justement la seule que vous ne puissiez point voir. Il la tient toujours fermée, à clé, et personne n'y entre jamais que lui. »
Voilà une jolie maison, Joseph, ne pus-je m'empêcher d'observer, et d'agréables habitants. Je crois que l'essence concentrée de toute la folie qu'il y a dans le monde s'est logée dans ma cervelle, le jour où j'ai lié mon sort au leur. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la question pour le moment. Il y a d'autres chambres. Pour l'amour du ciel, dépêchez-vous et laissez-moi m'installer quelque part. » Il ne répondit pas à cette adjuration. Il se borna à redescendre péniblement et d'un air bourru les degrés de bois et à s'arrêter devant une pièce qu'à la qualité supérieure de son ameublement, je jugeais devoir être la meilleure de la maison. Il y avait un tapis, un bon tapis, mais le dessin en était caché sous une couche de poussière, une cheminée tendue de papier tailladé qui tombait en lambeaux, un beau lit de chêne avec de grands rideaux rouges d'une étoffe d'un certain prix, de fabrication moderne, mais qui avait manifestement été mise à rude épreuve. Les bandes du haut arrachées de leurs anneaux pendaient en festonnant, et la tige de fer qui les supportait était courbée en arc d'un côté, laissant la draperie traîner sur le plancher. Les chaises aussi étaient endommagées. Beaucoup d'entre elles, sérieusement. De profondes entailles dégradaient les panneaux des murs. J'essayais de me décider à entrer dans cette pièce et à en prendre possession quand mon imbécile de guide annonça « C'est ici, la chambre du maître !»
Pendant ce temps, mon souper était refroidi, mon appétit enfui et ma patience épuisée. J'insistai pour avoir sur le champ un lieu de refuge et les moyens de me reposer.
« Mais où diable ?» commença le religieux vieillard. « Le Seigneur Jésus vous bénisse, le Seigneur nous pardonne, où diable c'est-il que vous voulez aller ? Vous êtes lassante, à la fin des fins, vous avez tout vu ? Excepté le petit bout de chambre de Harton.
Il n'y en a plus d'autres dans la maison. »
J'étais si irrité que je lançai à terre mon plateau avec tout ce qui était dessus, puis je m'assis sur le haut de l'escalier, me cachai le visage dans les mains et pleurai.
« Ah 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 !» s'écria Joseph. « Ben fait, Miss Cathy, ben fait, Miss Cathy. Eh ben le maître, il va trébucher dans cette vaisselle cassée, et alors nous entendrons quelque chose, nous verrons ce qui se passera. Quelle stupide folie, vous mériteriez d'être en pénitence jusqu'à la Noël pour jeter ainsi à vos pieds les précieux dons de Dieu dans vos rages insensées. Mais je me trompions fort, ou vous ne montrerez point de cette énergie-là longtemps. » Pensez-vous que Heathcliff y va supporter ses jolies manières? Je voudrions qu'il vous prenne à ce petit jeu-là. Oui, oui, je le voudrions. »
Là-dessus, il redescendit à sa tanière en grognant et emporta la chandelle avec lui. Je restai dans l'obscurité. La réflexion qui succéda à ma sotte action me força de reconnaître la nécessité de faire taire mon orgueil, d'étouffer ma colère, et de me hâter d'en faire disparaître les traces. Une aide inattendue se présenta tout à coup sous la forme de Trottler, que je reconnus maintenant pour le fils de notre vieux Skulker. Il avait passé ses premiers mois à la grange et avait été donné par mon père à M. Hindley. Je crois qu'il me reconnut aussi. Il frotta son nez contre le mien en manière de salut, puis se hâta de dévorer le porridge, pendant que je tâtonnais de marche en marche, ramassant les débris de faïence et essuyant les éclaboussures de lait sur la rampe avec mon mouchoir. Nos travaux étaient à peine terminés que j'entendis le pas d'Earnshaw dans le corridor. Mon aide baissa la queue et se colla contre le mur. Je me glissai dans l'encoignure de la porte la plus proche. Des efforts du chien pour éviter son maître n'eurent pas de succès. Comme me l'apprirent un bruit de pas précipité et un hurlement prolongé et pitoyable. J'eus plus de chance. Il passa, entra dans sa chambre et ferma la porte. Aussitôt après, Joseph monta avec Ayrton pour le mettre au lit. J'avais trouvé refuge dans la chambre de Ayrton, et le vieillard, en me voyant, dit « Il y a de la place pour vous et votre orgueil à présent que je pensions dans la salle. Elle est vide. Vous pouvez l'avoir tout entière à vous et à celui qui est toujours là entière et en bain mauvaise compagnie. » Je profitai avec empressement de la vie. Et à l'instant même où je me jetai sur une chaise près du feu, ma tête s'inclina et je m'endormis. Mon sommeil fut profond et doux, mais il prit fin beaucoup trop tôt. Monsieur Heathcliff me réveilla. Il venait de rentrer et me demandait de sa manière charmante ce que je faisais là. Je lui expliquai que si j'étais encore debout si tard, c'est qu'il avait la clé de notre chambre dans sa poche. L'adjectif « notre » l'offensa mortellement. Il jura que sa chambre n'était pas et ne serait jamais la mienne et qu'il me... Je ne veux pas reproduire son langage ni décrire sa conduite habituelle. Il est ingénieux et inlassable quand il s'agit de s'attirer mon horreur. L'étonnement qu'il me cause parfois est tel que ma frayeur en est étouffée. Pourtant, je vous assure, un tigre ou un serpent venimeux ne pourrait m'inspirer une terreur égale à celle qu'il fait naître en moi. Il me mit au courant de la maladie de Catherine, accusa mon frère d'en être la cause, et me promit qu'il me ferait souffrir à la place d'Edgar, jusqu'à ce qu'il puisse mettre la main sur lui. Je le hais. Je suis bien misérable. J'ai été folle. Gardez-vous de souffler mot de tout cela à la grange. Je vous attendrai chaque jour. Ne trompez pas mon attente. Isabelle. I won't take all the smile, though I will frown, and I'm not gonna take it all lying down, cause once I get started I go to town, cause I'm not like everybody else, I'm not like everybody else, I'm not like everybody else, I'm not like everybody else.
Confess all my sins like you want me to. There's one sin that I will say to you. I'm not like everybody else. 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 And I don't wanna run around like everybody else. And I don't wanna live my life like everybody else. And I won't say that I'm confined like everybody else. Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. Like everybody else. Stop all my running around. Do everything like you want me to. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. 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 And I don't want to run around like everybody else.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Dès que j'eus fini de lire cette lettre, j'allai trouver le maître. Je lui annonçai que sa sœur était arrivée à Hurlevent, qu'elle m'avait écrit pour me faire part du chagrin que lui causait l'état de Madame Linton et de son ardent désir de le voir. J'ajoutai qu'elle souhaitait qu'il voulût bien lui faire parvenir aussitôt que possible un gage de pardon par mon entremise. « De pardon ?» dit Linton. « Je n'ai rien à lui pardonner, Hélène. Vous pouvez aller à Hurlevent cet après-midi, si vous voulez, et lui dire que je ne suis pas irrité, mais affligé de l'avoir perdu. D'autant plus que je ne puis croire qu'elle soit jamais heureuse. Il ne saurait cependant être question pour moi d'aller la voir. Nous sommes séparés pour toujours. » Si elle veut réellement m'obliger, qu'elle persuade le coquin qu'elle a épousé de quitter le pays. Et vous ne lui écrirez pas un petit mot, monsieur ? Demandai-je d'un ton suppliant. Non, c'est inutile. Mes rapports avec la famille de Heathcliff seront aussi rares que les siens avec la mienne. Ils n'existeront plus. La froideur de monsieur Edgar me découragea extrêmement. Pendant tout le trajet à partir de la grange, je me creusai la cervelle pour trouver le moyen de donner un peu plus de cordialité à ses paroles quand je les répéterai et d'adoucir le refus qu'il avait opposé à ma demande de quelques simples lignes pour consoler Isabelle. Je crois bien qu'elle me guettait depuis le matin. Je la vis qui regardait derrière la fenêtre comme je montais la chaussée du jardin et je lui fis signe. Mais elle recula, comme si elle craignait d'être observée. J'entrai sans frapper. On ne peut imaginer de spectacle plus triste, plus lugubre, que celui que présentait cette salle, autrefois si gaie. Je dois avouer que si j'eusse été à la place de la jeune femme, j'aurais au moins balayé le foyer et essuyé les tables avec un torchon. Mais elle était déjà gagnée par le contagieux esprit d'incurie qui l'environnait. Sa jolie figure était pâle et indolente. Ses cheveux n'étaient pas bouclés. Quelques mèches pendaient lamentablement, d'autres étaient roulées sans soin sur sa tête.
Elle ne s'était probablement pas déshabillée depuis la veille au soir. Hindley n'était pas là. Monsieur Heathcliff était assis à une table en train de feuilleter quelques papiers dans son portefeuille, mais il se leva quand j'entrai, me demanda très amicalement comment j'allais et m'offrit une chaise. Au milieu de tout ce qu'il y avait là, lui seul avait l'air décent. Je trouvais qu'il n'avait jamais eu meilleure apparence. Les circonstances avaient tellement modifié leurs positions respectives qu'un étranger l'aurait certainement pris pour un gentleman de naissance et d'éducation, et sa femme pour une parfaite petite souillon. Elle s'avança vivement à ma rencontre et tendit la main pour recevoir la lettre qu'elle attendait. Je secouai la tête. Elle ne voulut pas comprendre mon geste, me suivit près d'un buffet où j'allais déposer mon chapeau et me sollicita à voix basse de lui remettre sur le champ ce que j'avais apporté. Islis devina le sens de sa manœuvre et dit « Si vous avez quelque chose pour Isabelle, comme je n'en doute pas, Nelly, donnez-le lui. Ce n'est pas la peine d'en faire un secret. Nous n'avons pas de secret entre nous. » « Oh, je n'ai rien, » répondis-je, pensant qu'il valait mieux dire la vérité sans tarder. Mon maître m'a chargé de dire à sa sœur qu'elle ne doit attendre ni lettre ni visite de lui pour le moment. Il vous envoie ce souvenir affectueux, madame, ses souhaits pour votre bonheur et son pardon, pour le chagrin que vous lui avez causé. Mais il pense que dorénavant sa maison et cette maison-ci doivent suspendre tout rapport, vu qu'il n'en saurait sortir rien de bon. Les lèvres de Madame Heathcliff frémirent légèrement et elle retourna prendre sa place près de la fenêtre. Son mari resta debout devant la cheminée près de moi et se mit à me faire des questions au sujet de Catherine. Je lui donnai sur sa maladie les détails que je jugeais convenables et il parvint, par un nouvel interrogatoire, à me faire raconter la plupart des faits liés à l'origine de cette maladie. Je blâmai Catherine à juste titre de l'avoir elle-même provoquée. Je conclus en exprimant l'espoir qu'il suivrait l'exemple de M. Linton et s'abstiendrait à l'avenir de toute relation avec la famille de celui-ci, que ses intentions fussent bonnes ou non. « Madame Linton est à peine convalescente, dis-je. Elle ne sera jamais ce qu'elle était auparavant, mais sa vie est sauve. » Si réellement vous lui portez intérêt, vous éviterez de vous trouver encore sur son chemin. Bien mieux, vous quitterez définitivement le pays. Et afin que vous n'en puissiez avoir aucun regret, je vous dirai que Catherine Linton est aussi différente maintenant de votre ancienne amie Catherine Earnshaw que cette jeune dame l'est différente de moi. Son aspect est entièrement changé, son caractère encore bien plus. Celui que la nécessité oblige d'être son compagnon n'aura désormais pour soutenir son affection que le souvenir de ce qu'elle était autrefois, la simple humanité et le sentiment du devoir.
« C'est bien possible, »
observa Heathcliff, en se forçant de paraître calme. « Il est bien possible que votre maître ne puisse s'appuyer sur rien d'autre que la simple humanité et le sentiment du devoir. Mais vous, figurez-vous que je vais abandonner Catherine à son devoir et à son humanité ? Pouvez-vous comparer mes sentiments pour Catherine aux siens ? Je veux qu'avant de quitter cette maison, vous me promettiez de m'obtenir une entrevue avec elle. Consentez ou refusez, je veux la voir. Que dites-vous ?
Je dis, monsieur Heathcliff, qu'il ne faut pas que vous la voyiez, et vous ne la verrez jamais par mon entreprise. Une autre rencontre entre vous et mon maître achèverait de la tuer.
Avec votre aide, cette rencontre pourrait être évitée, et si un pareil événement devait créer un danger, si Linton était la cause d'un seul trouble de plus dans l'existence de Catherine, eh bien, je crois que je serais fondé à me porter aux extrêmes.
Je voudrais que vous fussiez assez sincère pour me dire si Catherine souffrirait beaucoup de le perdre. C'est cette crainte qui me retient. Et ici, vous voyez la différence de nos sentiments. S'il eût été à ma place et moi à la sienne, bien que je le haïsse d'une haine qui a empoisonné ma vie, je n'aurais jamais levé la main sur lui. Ayez l'air incrédule tant qu'il vous plaira. Je ne l'aurais jamais banni de la société de Catherine tant qu'elle aurait désiré la sienne. Dès le moment qu'elle aurait cessé de lui porter intérêt, je lui aurais arraché le cœur et j'aurais bu son sang. Mais jusque-là, si vous ne me croyez pas, vous ne me connaissez pas, jusque-là, je serais mort à petit feu avant de toucher un seul cheveu de sa tête. Et pourtant, vous n'avez aucun scrupule de ruiner complètement tout espoir de complet rétablissement de ma maîtresse, en vous rappelant de force à son souvenir alors qu'elle vous a presque oublié et en lui infligeant l'épreuve de nouvelles discordes et de nouvelles angoisses. Vous croyez qu'elle m'a presque oublié ? Oh Nelly, vous savez bien qu'il n'en est rien. Vous savez tout comme moi que pour chaque pensée qu'elle accorde à Linton, elle m'en accorde 1000. Dans la période la plus misérable de mon existence, j'ai eu cette crainte-là. J'en ai été poursuivi lors de mon retour dans le pays l'été dernier, mais seule l'assurance qu'elle m'en donnerait elle-même pourrait me faire admettre maintenant cette horrible idée. Si c'était vrai, que m'importeraient alors Linton et Hindley et tous les rêves que j'ai pu faire ? Deux mots résumeraient mon avenir, mort et enfer. L'existence après que j'aurais perdu Catherine serait pour moi l'enfer. Que j'ai été stupide de m'imaginer un moment qu'elle tenait à l'affection d'Edgar Linton plus qu'à la mienne. Quand il l'aimerait de toutes ses forces, de tout son être chétif, il n'arriverait pas à l'aimer en 80 ans autant que moi en un jour. Et le cœur de Catherine est aussi profond que le mien. L'auge que voilà aurait autant de peine à contenir la mère que Linton a accaparé toute l'affection de sa femme. Bah, il lui est à peine un peu plus cher que son chien ou son cheval. Il n'est pas au pouvoir de Linton d'être aimé comme moi. Comment pourrait-elle aimer en lui ce qu'il n'a pas ? Catherine et Edgar sont aussi attachés l'un à l'autre que deux personnes peuvent l'être, s'écria Isabelle avec une vivacité soudaine. Nul n'a le droit de parler de la sorte et je ne laisserai pas calomnier mon frère sans protestation. Votre frère vous est extrêmement attaché à vous aussi, n'est-ce pas ? Observa Heathcliff avec mépris. Il vous envoie promener avec un empressement remarquable. Il ignore ce que je souffre, répliqua-t-elle. Je ne lui ai pas dit cela. Vous lui avez donc dit quelque chose ? Vous lui avez écrit, n'est-ce pas ? Pour lui dire que j'étais marié, oui, je lui ai écrit. Vous avez vu sa lettre. Et rien d'autre depuis ? Non. Le changement de condition me paraît avoir profondément éprouvé ma jeune dame, remarquai-je. L'affection de quelqu'un lui fait évidemment défaut. De qui je peux le deviner, mais il vaut peut-être mieux que je ne le dise pas. Je devine, moi, que c'est la sienne propre, reprit Heathcliff. Elle devient une vraie souillon. Elle s'est lassée avec une rapidité surprenante de chercher à me plaire. Vous ne le croiriez pas, mais le lendemain même de notre mariage, elle pleurait pour retourner chez elle. Après tout, si elle n'est pas très bien tenue, elle n'en sera que mieux à sa place dans cette maison, et je prendrai garde qu'elle ne me fasse honte en rôdant au dehors. Mais, monsieur, j'espère que vous n'oublierez pas que Madame Heathcliff est habituée à être soignée et servie, et qu'elle a été élevée comme une fille unique auprès de qui tout le monde s'empressait. Il faut que vous lui promettiez d'avoir une femme de chambre pour tenir tout propre autour d'elle. Il faut que vous la traitiez avec bonté. Quoi que vous pensiez de Monsieur Edgar, vous ne pouvez douter qu'elle, du moins, ne soit capable d'un attachement profond. car autrement elle n'aurait pas abandonné les élégances, les commodités et les amis de son ancienne demeure pour consentir à s'établir avec vous dans un désert comme celui-ci. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë que nous retrouverons finalement la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.